l'équipe de Rennes sur le score, là encore, de 1 à 0. Restez à l'écoute de RFI.
Autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui avec Nicolas Benita à la réalisation. Autour de la question, quels sont les nouveaux instruments de musique? Les instruments de musique évoluent sans cesse grâce au savoir-faire des fabricants, aux besoins des musiciens et à l'inventivité des compositeurs, mais aussi grâce à des travaux scientifiques. Il y a les études acoustiques sur les instruments comme la guitare ou le piano qui permettent de faire évoluer les matériaux. Il y a les études psychologiques sur le jeu instrumental qui améliore le ressenti du musicien. Et avec l'électronique et l'informatique, on équipe les instruments de multiples capteurs qui produisent toutes sortes de sonorités. On peut jouer de la clarinette en bougeant les bras, de l'accordéon sur un piano ou bien chanter en duo avec un ordinateur. Tous ces travaux permettent d'améliorer les possibilités des instruments, d'en concevoir de radicalement nouveaux et d'inventer des langages musicaux littéralement inouïs. Des innovations dont bénéficient tous les genres de musique. De la musique dite savante à la techno, en passant par le rock et les musiques traditionnelles. Quels sont les nouveaux instruments de musique? Partons à la découverte d'un univers qui marie l'art et la science, la technologie et l'artisanat, en compagnie du musicologue Benoît Navaret. Benoît Navaret, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes maître de conférence à Paris-Sorbonne, à l'université Paris-Sorbonne, à l'UFR de musique et musicologie. Alors vous êtes aussi chercheur associé à l'équipe LAM, équipe lutherie, acoustique, musique, qui fait partie de l'Institut Jean Leron d'Alembert de l'université Paris 6, hein, Pierre et Marie Curie. C'est un institut qui travaille sur la musique, l'acoustique, la physiologie de la perception, la psychologie, l'électroacoustique en relation avec des fabricants d'instruments. Alors est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots quel est votre travail, en quoi ça consiste de faire de la recherche dans cet univers?
Ce travail consiste, je reviens juste sur une chose, je dépends aussi de l'Institut de recherche en musicologie. Et dans le cadre de cet Institut de recherche en musicologie, on traite par exemple de l'histoire des instruments, de l'évolution des techniques, de leurs applications, de leurs usages. Et c'est dans ce cadre, au sein du LAM, que je suis amené à collaborer avec des collègues sur quel est le ressenti des musiciens, comment peut-on caractériser ce ressenti sur des instruments que l'on cherche à faire évoluer, et tout ceci en lien avec le son. Sachant que l'objet spécifique étant l'instrument de musique, on est aussi là pour s'intéresser aux musiciens en lien avec l'instrument de musique qu'il utilise.
Alors pour se mettre tout de suite un petit peu dans l'ambiance de ces nouveaux instruments, on va écouter un saxophone holochrome. Alors de quoi il s'agit exactement?
Alors le saxophone est un instrument qui est né au 19e siècle et qui a pu bénéficier de toute une dynamique et une richesse culturelle. Et là, avec cet instrument qui a été fabriqué par François Louis en 99, on est dans un instrument qui est double, c'est-à-dire la possibilité de jouer en même temps pour un seul musicien de deux saxophones soprano. Soprano ici qui fait référence à la taille de l'instrument.
Mais alors, c'est-à-dire il y a un seul tuyau, puisqu'il a une seule bouche, hein, sauf si c'est un extraterrestre, hein, et il y a deux instruments qui sortent de ce premier tuyau initial qui entre dans la bouche, si on veut, c'est bien ça.
Alors on pourrait dire ça, mais en fait non, donc c'est plutôt un extraterrestre, si je reprends vos termes. Il y a vraiment deux tuyaux dans lesquels il souffle à partir d'un bec qui est dédoublé.
Oui, il y a quand même une seule bouche. Hein.
Voilà, mais il n'a qu'une seule bouche. Et donc voilà. L'intérêt, si vous voulez, sur le plan musical, c'est que le musicien peut jouer deux mélodies en même temps.
Alors on va tout de suite écouter le saxophone holochrome. Donc là, il y a un seul musicien hein, qui joue de saxophone à deux tuyaux.
Holochrome, oui. Et justement, on peut dire que Des fois, on dit qu'un plus un est égal à deux, mais là, ce n'est pas le cas. Parce que, en fait, en jouant sur deux saxophones simultanément, il y a des effets sonores qui viennent s'ajouter, et ce n'est pas comme avoir deux musiciens qui
par
jouent
exemple,
là à côté.
Alors, ouais.
Mais si vous écoutiez, on peut pas réécouter, mais si on écoutait les mélodies, on entend, par exemple, des phénomènes de battement. C'est-à-dire des notes qui font,
C'est-à-dire deux notes dont la fréquence est très proche.
Exactement.
Hein.
Et comme ces phénomènes sont très proches et produits à partir d'une source qui est quasiment la même, c'est un attribut important sur le plan musical.
Alors donc, là, il n'y a pas d'électronique, hein, là-dedans, il y a uniquement des tuyaux, hein, mais grâce à l'électronique, à l'informatique, hein, on peut aussi modifier les sons. Écoutons un saxophone qui est muni d'une interface, hein, qu'on appelle une interface MIDI. Vous pouvez nous expliquer très brièvement de quoi il s'agit ?
Oui, le MIDI est une norme qui a été conçue et mise au point et adoptée par des fabricants dans les années 80. L'idée est simple, c'est essayer de rendre compatibles des machines qui produisent des sons, rendre compatibles, c'est-à-dire qu'une marque un dispositif qui envoie des sons et que la marque concurrente puisse être quand même utilisée par le même musicien.
Donc, par exemple, on a un saxophone des capteurs et derrière ces capteurs, de l'électronique qui modifie le son. Écoutons ce que ça donne. Grâce à ces interfaces entre un instrument de musique et de l'électronique, on peut faire toutes sortes de choses. Par exemple, vous pouvez nous donner des exemples. On peut jouer du piano à quatre mains, par exemple, tout seul.
Oui, ça c'est tout à fait faisable. Il y a un piano qui était équipé d'un dispositif de mécanisation des touches. Alors on peut très bien dire qu'au petit robot qui est affecté aux touches, joue-moi un morceau pendant que le musicien joue en même temps. Là, ce qu'on a entendu sur ce sax, qui est un sax, et oui, qui est un objet en plastique, hein, avec des capteurs, c'est finalement qu'on entend des nappes de violon, des nappes avec des sonorités synthétiques, quelque chose qu'on ne peut pas avoir avec un saxophone traditionnel.
Et quels sont les autres exemples de modifications comme ça qu'on peut inventer de nos jours, avec des chanteurs par exemple, et des instruments traditionnels ?
Il est vrai que la notion de MIDI est importante parce qu'elle permet de récupérer un geste musical. Quelle note on joue, à quelle intensité on joue, et sur quelle durée on produit des notes. Donc ceci va dépendre, par exemple, de ce que l'on met. Si on traite ceci avec un ordinateur, on peut transformer le timbre de la voix, puisque vous me parliez de la voix, on peut transformer le lieu où ça va être spatialisé, si on a un dispositif avec plusieurs enceintes. Donc si on est dans une salle, on peut avoir le son qui vient de devant, de derrière. On peut avoir des impressions de salle.
Oui,
aussi.
Par exemple, je crois qu'il y a un dispositif qui permet à partir du son d'une chanteuse, de le faire venir de devant, si la chanteuse chante très fort, ou de derrière, si elle chante avec un faible niveau, ou des côtés, du devant, du dessous, par exemple.
Oui.
Tout ce qu'on veut est possible, en fait.
Voilà, c'est une histoire de programmation, de savoir ce que le compositeur aura voulu au moment de diffuser, et l'interprète.
Avant de développer un petit peu les nouveaux instruments d'aujourd'hui, revenons un petit peu dans le passé, puisque il y a toujours eu des innovations, mais toutes les innovations scientifiques n'ont pas forcément du succès. Il y a des innovations qui, finalement, sont restées très confidentiel. Écoutons cet instrument qui s'appelle alors le térémine. Vous pouvez nous expliquer comment il a été inventé ?
Oui, le térémine a été inventé par un ingénieur russe qui s'appelle Lev Termen, donc en Russie, au début du XXe siècle, c'est-à-dire en 1919. Il a présenté à Lénine qui a été fasciné parce qu'il a quelque chose de fascinant, c'est que l'on produit un son sans toucher l'instrument.
Et concrètement, alors donc, c'est simplement par imposition des mains, on pourrait dire.
Oui, exactement. Vous avez deux antennes, originellement. Une antenne qui est droite et qui permet de contrôler la hauteur du son produit, et une autre antenne qui est en forme arrondie, plutôt, qui permet de doser le volume du son émis.
Alors écoutons un extrait justement du concerto pour piano numéro 21 de Mozart, concerto en do majeur, adapté au térémine. Alors on n'en fabrique plus, hein, Benoît Navarrete et Thérémine. Hein,
ah, faux. Et oui, c'est pour ça aussi que j'ai proposé dans votre liste, puisque c'est un instrument qui est utilisé dans les musiques populaires. C'est un instrument qui a été reproduit à peu près à partir de 2005 par Moog, qui est un autre grand inventeur des synthétiseurs. Et donc aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros, on a une interface qui est le Moog avec cette même antenne droite et cet anneau. Juste un commentaire sur ce qu'on a écouté, c'est de la synthèse, enfin c'est pas tout à fait la synthèse, mais ce sont des générateurs sonores, mais il y a une très grande vocalité dans l'exemple qu'on vient d'entendre, il y a une fluidité et ça donne quelque chose de très humain.
Et cet instrument a aussi été utilisé dans le rock, hein, oui, par Led Zeppelin, notamment dans ce morceau Wolota Love. Quels sont les nouveaux instruments de musique aujourd'hui avec le musicologue Benoît Navarrete? Benoît Navarrete, parlez-nous un petit peu d'un autre instrument, toujours, disons, inspiré du même principe, hein, le matriomine. Qu'est-ce que c'est exactement?
Bien, cet instrument naît de l'engouement au Japon du thérémine. Et donc, de même qu'on a un thérémine en Occident et partout dans le monde, on a le matriomine au Japon, sachant qu'il y a des classes d'enseignement du thérémine. Et donc, la spécificité, c'est que c'est un dispositif similaire au thérémine qui est placé dans une petite matrioshka, c'est-à-dire la petite poupée russe, comme quand on a les poupées siamoises.
Donc, alors, concrètement, on a une poupée russe et puis,
Alors, vous avez...
On déplace les mains autour de cette poupée d'une façon très mystérieuse. Hein.
Exactement, et ça fait varier la hauteur du son et l'intensité. Donc, c'est une petite poupée. Ils sont tous assis très droits sur une chaise. Avec une main, ils soutiennent la petite poupée. Et avec l'autre, en approchant et éloignant la main de la main du matriomine, ils font varier la hauteur du son.
Mais ça doit être assez difficile à jouer, puisqu'on n'a pas de repères. On n'est pas comme sur une guitare avec des graduations ou des touches.
Donc... Exactement. Et cette histoire d'interface, c'est-à-dire comment on produit le son, nécessite un apprentissage. Et ça peut expliquer que cet instrument n'est pas connu un grand engouement au début du XXe siècle lorsqu'il est sorti.
Alors écoutons justement donc un orchestre de 167 musiciens de matriomine qui joue la symphonie numéro 9, l'hymne à la voix de Beethoven. Donc là, c'est une version un peu boogie-woogie de
exactement.
Beethoven.
Et puis, il faut signaler donc qu'ils sont 167. Ils ont un Guinness des records en ayant joué des pièces à 273. Donc, vous voyez qu'il y avait un véritable engouement au Japon pour cet instrument autour de cette petite poupée qui est équipée du dispositif du thérémine.
Alors, un autre instrument, toujours basé sur les ondes, un instrument assez célèbre hein, dans le milieu de la musique, sont les ondes Martenot. Dites-nous-en un petit peu.
L'onde Martenot, c'est vrai, quand on écoute, notamment en comparaison de l'extrait de Mozart qu'on vient d'écouter, on peut dire que c'est un peu le même type de sonorité. L'atout qu'ont les ondes Martenot, c'est qu'elles ont une interface de type clavier.
Oui.
En plus d'avoir un autre dispositif qui est original, qui est celui d'une bague, que l'interprète se met donc au bout d'un doigt, pour avoir des phénomènes de glissando, c'est-à-dire de variation continue de la hauteur des notes.
Donc ça ressemble à une sorte de piano, hein, fait avec des touches, hein, mais basé sur un fonctionnement totalement différent, donc avec un système...
Avec un oscillateur d'ondes. Avec des sons électriques, des signaux électriques qui sont envoyés sur des haut-parleurs.
Écoutons donc un petit extrait d'Onde Martenot, c'est un extrait d'Oraison d'Olivier Messiaen. Donc il y a beaucoup d'instruments comme ça hein, qui ont été construits par de géniaux inventeurs et pas forcément des scientifiques. Hein. Il y a un instrument qu'on appelle cristal Bachet qui a été inventé par deux frères, hein, c'est
oui,
bien ça ?
Oui, par François et Bernard Bachet en 1952. François était artiste dans le sens où il a étudié la sculpture et Bernard était un ingénieur qui a travaillé dans la maison. Il travaillait à l'ORTF au sein du groupe de recherche musicale de 62 à 65.
Et cet instrument donc il se compose de tiges de cristal qu'on actionne cette fois avec les doigts. Écoutons un petit extrait. Donc ces instruments de musique qui ont, disons, meublé l'histoire de la musique depuis toujours, certains ont eu beaucoup de succès, d'autres non. Alors le cristal Bachet, pourquoi est-ce que finalement il a un succès très limité? Parce qu'il est difficile à construire, parce qu'il est difficile à jouer?
Oui, c'est vrai que ça reste un instrument de fabrication traditionnelle. Dans un atelier, il n'y a pas de production très large. Après, vous avez parlé de tiges, mais les tiges sur lesquelles agit principalement l'interprète, il frotte les tiges pour faire vibrer d'autres tiges verticales. Mais c'est tout un geste à apprendre. On en revient toujours à cette question d'apprendre un geste pour produire un son. Et donc ceci peut être un frein. En revanche, il faut aussi qu'il y ait des compositeurs qui composent pour cet instrument de manière à ce qu'il y ait un répertoire renouvelé et qu'on ne tombe pas uniquement dans l'interprétation d'arrangements.
Et les scientifiques là-dedans, quelle est leur fonction, quel est leur mot dans l'histoire? Par exemple, au LAM, vous faites des études hein, sur les ondes Martenot, je crois.
Oui, alors c'est vrai que par rapport aux ondes Martenot, c'est un instrument qu'on ne produit plus. Ce que je veux dire, c'est que c'est un instrument qui a été fait du temps de Martenot, donc il reste des instruments de cette époque-là, mais qui ont vieilli aussi. Donc se posent des questions, comment permettre comment poursuivre la production de cet instrument, et c'est pour ça qu'il y a des études. Le genre d'étude, c'est l'étude du geste. Il y a une pièce très importante au sein des ondes Martenot, qui est un bouton, une pièce pressoir qui permet aux musiciens de gérer l'intensité du son produit, en plus d'interrupteurs pour modifier la sonorité. Cette pièce maîtresse est extrêmement importante, donc on a fait venir des musiciens qui nous ont dit comment ils trouvaient, comment caractériser cette touche d'intensité pour essayer d'en reproduire avec d'autres procédés. De même, au Musée de la Musique, il y a eu, au sein du laboratoire, une étude sur un composant particulier de cette électronique, qui était un sac de cuir dans lequel il y avait un mélange de deux produits. Un produit qui était du graphite et puis un autre produit qui lui était isolant, qui était le mica. Et ceci, c'était une sorte de petite tambouille de Maurice Martenot. Donc, arriver à comprendre comment les circuits électroniques pour ces instruments étaient faits permet d'envisager la suite et de produire de nouveaux instruments.
Écoutons d'autres géniaux inventeurs comme Ken Butler. Benoît Navarre, de quoi joue Ken Butler ici?
Oh, c'est un instrument qui est un mélange de crosse de hockey avec une raquette de tennis. Il y a une raquette de tennis. Il y a aussi des raquettes pour aller marcher dans la neige avec deux manches pour celui-ci, ce que l'on a écouté. Un manche à deux cordes pour les sons les plus graves qu'on a entendus à la fin et un autre constitué de quatre cordes un peu plus aiguës ainsi que des petite partie qui pivote sur laquelle il peut faire des percussions.
Donc on a beaucoup beaucoup de choses à dire, beaucoup de musique encore à écouter. La suite dans 3 minutes, juste après le flash d'info. On se retrouve autour de la question: quels sont les nouveaux instruments de musique avec Benoît Navarre.
Autour de la question sur internet www.rtl.
De l'UNEDIC, l'indemnisation chômage, et déjà le syndicat d'artisans UPA quitte la négociation.
Autour
de la question. Antonio Fischetti.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Quels sont les nouveaux instruments de musique ?» en compagnie de Benoît Navaret, musicologue. Alors Benoît Navaret, on a entendu hein, différents instruments de musique qui font appel à des interfaces électroniques. On pourrait croire que seulement les musiques modernes font, disons, bénéficient hein, de ces innovations, mais pas seulement. Il y a aussi des musiques traditionnelles qui peuvent justement faire l'objet d'hybridation comme ça avec de nouvelles technologies.
Oui, là l'exemple que l'on va entendre. C'est là l'ambiguïté de cet instrument qui est très bien, c'est qu'en écoutant...
Qui s'appelle donc le...
Le Yaibahash. On pourrait se dire que on a des sons électroacoustiques, mais en fait tout est acoustique et ça repose sur l'ingéniosité d'un interprète qui a fabriqué son instrument.
Alors décrivez-nous cet instrument qu'on
Alors c'est un instrument qui est constitué d'une corde que l'on met en vibration par frottement. En général, de ce que j'ai vu de son jeu, il effleurait la corde, donc on fait apparaître ce qu'on appelle les sons harmoniques, qui sont assez aigus. Et ce dispositif avec la corde est relié à deux longs ressorts qui sont reliés à deux pots des tambours sur cadre. Et donc, on a un phénomène d'amplification de vibrations parasites. C'est tout à fait le même procédé que la boîte à tonnerre. Je ne sais pas si vous connaissez la boîte à tonnerre que l'on secoue avec le ressort qui fait vibrer une membrane.
Oui.
C'est la même chose, sauf que là, on a un instrument qui est très long, qui fait plusieurs mètres. Et donc, ça donne cette sonorité particulière.
Écoutons le Yaibahash. Faisons maintenant un bond hein, dans la technologie, en passant de la musique traditionnelle à l'électronique, puisque avec l'informatique, hein, maintenant, donc on a accès à des musiques totalement, disons, nouvelles et totalement, disons, d'une qui font appel à une technologie de pointe, hein, notamment avec le compositeur de musique électronique Aphex Twin, ce morceau Bucephalus Bouncing Ball. Benoît Navaret, qu'est-ce que ça vous évoque quand vous écoutez ce genre de musique en tant que musicologue ?
Disons, ce que j'ai voulu montrer avec cet extrait, c'est qu'on est dans une approche musicale qui ne peut pas reposer sur l'usage d'instruments traditionnels. Et la complexité rythmique que l'on entend, ce n'est pas du micromontage au sens où on ne peut pas imaginer quelqu'un qui va mettre un à un les sons. Bien sûr, il y en a qui composent comme ça, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, on a besoin d'outils informatiques, de logiciels, à partir de sons de synthétiseurs, analogiques ou numériques, et tout un savant mélange et un travail de composition qui, lui, est spécifique à donc c'est Richard David James qui est le compositeur derrière Aphex Twin. Donc, ce qui est fabuleux, c'est créer une complexité dans la rythmique et c'est une signature de ce compositeur-interprète.
Et qui ne peut se faire qu'avec l'ordinateur, en fait.
Oui, et en fait, la déformation de sons produits à partir de synthétiseurs. En tout cas, avec des sons acoustiques, c'est plus difficile. Et même, si on demandait à un interprète percussionniste de jouer ceci, à mon avis, ce serait plus délicat.
Et on peut travailler sur l'instrument acoustique hein, directement, comme on l'a vu en première partie. On peut travailler sur l'électronique, mais on peut aussi travailler sur l'enregistrement. Hein. C'est ce que fait Christian Marclay, qu'on va écouter ici.
C'est très important pour moi de montrer comment le son est produit, et pas seulement de faire quelque chose, de poser l'aiguille sur un disque et de le laisser jouer, et vraiment d'avoir une interaction avec cet objet, de le transformer, de le manipuler, le faire aller plus vite, plus lentement, et de vraiment créer un son nouveau à partir de ces sons enregistrés, de ces sons morts, de cette musique qui est plus en direct, qui est plus live.
« Donc vous êtes un fan, Benoît Nabaret, de Christian Marclay.
Ben, c'est une approche qui est en lien avec la musique concrète. Quelque part, on part d'un enregistrement, on part d'un son qui existe déjà. Et il en est venu à cet instrument parce qu'il dit simplement « je pratiquais pas d'instrument, donc je me suis essayé à ce tourne-disque ». Et le travail qu'il fait de décomposition, de fragmenter des disques, de modifier le tour, le centre du disque, fait que, de par ses collaborations, il apporte quelque chose de nouveau. Il fait ça depuis les années 70 et il a eu de très belles collaborations artistiques. Oui.
Est-ce qu'on peut dire qu'une révolution un petit peu dans l'histoire des instruments de musique, ça a été aussi l'électrification de la guitare notamment, puisque à partir d'une vibration de corde, on peut obtenir tout un tas de sons très différents qu'on va écouter ici. Alors je crois que vous êtes un guitariste également, Benoît Nabaret. Est-ce que vous utilisez ce genre de choses ?
Oui, là, c'est vrai que les premiers exemples de la séquence que vous avez diffusée font surtout appel à un effet qui est la wah-wah. Qui est facile à reproduire avec la voix
la
d'ailleurs.
La pédale, hein.
La pédale, wah-wah. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les innovations ou la nouveauté, les choses ne viennent pas forcément de l'instrument lui-même. C'est-à-dire la guitare électrique à corps plein, électrique telle qu'elle est créée là, elle est née dans les années 50, elle n'a pas énormément évolué par la suite. En revanche, tout le système d'amplification qui a été associé à la guitare a évolué et énormément de petites pédales d'effet, dont la pédale wah-wah qui permet de vraiment changer considérablement la sonorité de l'instrument.
Oui, mais alors ça, c'est effectivement, comme vous le dites, c'est pas très nouveau, mais qu'est-ce qui évolue aujourd'hui, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui nous attend dans les années qui viennent?
Ce qui évolue beaucoup, c'est en termes d'interaction avec entre le compositeur, celui qui joue et le son produit. C'est-à-dire que, et ça, ça peut être un paradoxe, ce n'est pas parce que les technologies autour d'un instrument évoluent que le rendu sonore évolue. Par contre, le fait que les technologies changent dans la façon de composer va modifier le jeu. Je donne un petit exemple. Quand on joue de la guitare électrique, on a un ampli. Quand on écoute des musiciens, chaque musicien a son type d'ampli. Et le fait d'avoir un ordinateur peut permettre d'avoir émulé, en simulant, une grande quantité d'amplificateurs et on peut choisir la sonorité de chacun.
Et justement, puisqu'on parle de technologie et de musique, on ne peut pas ne pas penser à Pierre Boulez, récemment disparu, qui a été le créateur de l'IRCAM, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique, à l'avant-garde de cette musique qui utilise l'ordinateur. Et aujourd'hui encore, à l'IRCAM, on continue de développer de nouveaux instruments. Écoutons par exemple cet extrait de Smart Guitar. Benoît Nabaret, un mot sur cet instrument du luthier Maurice Dupont, collaboration avec l'IRCAM.
Oui, alors Maurice Dupont a fabriqué cette guitare classique et à l'intérieur, l'IRCAM a rajouté un dispositif qu'on appelle du contrôle actif. Ce que vous avez entendu là, en fait, est le rayonnement acoustique de l'instrument. Il n'y avait pas du tout d'électronique. Et donc le rôle de cette guitare, qui est une smart guitare, telle qu'il l'appelle à l'IRCAM, c'est la table de la guitare, la table d'harmonie, qui sert de haut-parleur. Et donc on fait vibrer la table à partir de signaux électriques qui sont injectés au niveau de la table, et c'est cet aspect qui est très innovant. Et d'ailleurs il y aura un concert autour d'une composition de Thomas Bordalero et qui sera joué par Christelle Seri, un concert à la Philharmonie de Paris le 24 juin à 17h, à 18h.
Oui, très bien, mais retenons la date. Et puis au LAM, au laboratoire, disons à l'équipe luthier acoustique musique de l'université Paris 6, à laquelle vous collaborez également, on développe des outils comme des tablettes graphiques qui permettent de faire de la nouvelle musique. Dites-nous un mot, par exemple, de cette tablette graphique qu'on va entendre.
Oui, le Cantor Digitalis est une tablette graphique qui est reliée à un
Cantor
logiciel.
Cantor Digitalis, c'est le
Cantor
nom.
Cantor Digitalis est un procédé de synthèse de la voix. Donc, il y a un logiciel qui est développé, qui est autour de la voix, et on contrôle la sonorité. Vous allez voir qu'il y a un grand réalisme avec la voix, grâce à la manipulation d'une tablette graphique, c'est-à-dire avec une main et un stylet.
Donc, ça ressemble à de la voix, mais ça n'est pas de la voix. On contrôle ce son avec la main. Benoît Navaret, ce qui compte dans ces instruments, finalement, ce n'est pas l'instrument en tant que tel, mais ce qu'on en fait avec un logiciel. Et puis là, je crois que ce logiciel est un logiciel gratuit, participatif, si on peut dire.
Oui, et c'est ça qui est important aussi dans l'évolution des usages. C'est open source, c'est téléchargeable. Si vous tapez cantordigitalis.limsi.fr, vous aurez des explications sur le fonctionnement du logiciel, vous pourrez le télécharger. Donc chacun peut explorer le logiciel et l'utiliser en fonction de ses envies et du matériel dont il dispose.
Et ce qui est intéressant aussi dans ces nouveaux instruments, c'est la façon dont jouer, puisque dans les instruments traditionnels comme une flûte, une clarinette, on souffle d'habitude, mais aujourd'hui on peut jouer en déplaçant les mains, en respirant, en faisant n'importe quoi finalement, puisqu'il suffit de mettre, entre guillemets, de mettre des capteurs et de transformer le signal en son d'une façon dont le compositeur aura est préétabli en fait finalement.
Oui,
c'est un peu ça.
C'est ça. Et donc l'exemple suivant qui est le Carlax est un instrument qui ressemble à un instrument avant mais qui n'est pas utilisé comme tel. Il y a des clétages et il y a toujours cette norme MIDI dont je vous ai déjà un petit peu parlé, qui permet d'envoyer des informations à un ordinateur et ensuite on programme l'ordinateur de manière à produire des sons particuliers. Et cet outil est sensible à des clés mais aussi à des mouvements, des orientations.
Alors on va écouter le Carlax, c'est le nom de cet instrument qui ressemble à une sorte de clarinette et qui a été inventé dans les années 2000. Mais finalement on ne souffle pas dedans, on déplace cet instrument en haut, en bas, près ou loin de soi. Et puis, en fonction de ces mouvements, on va obtenir différents sons. Quoi servent ces instruments, Benoît Navaret, finalement, puisque on pourrait se dire, quand on les voit jouer comme ça, que on pourrait passer une bande, enregistrer, ça serait un petit peu la même chose, puisque finalement, il n'y a pas forcément de lien entre la gestuelle du musicien et puis ce qu'on entend, en tout cas pas de lien perceptible facilement par le spectateur.
Dans la mesure, alors ça c'est un point très important que vous soulignez, effectivement, surtout que là on écoute et on ne voit pas les artistes qui en jouent, et là c'était un trio, donc vous aviez trois sources dans un genre électroacoustique, donc il y a un lien, dire qu'il n'y a pas de lien c'est faux, et simplement c'est vrai que si pour certaines interfaces on comprend un peu mieux le geste, ça nous permet de mieux comprendre ce qui dans la musique finale relève de tel ou tel artiste.
Ouais, mais le but aussi de ces instruments nouveaux qui utilisent l'informatique, c'est pas forcément de remplacer les instruments anciens, puisque finalement on pourrait croire que grâce à l'ordinateur, il n'y a plus besoin de piano, de trompette, etc. Ça n'est pas le cas.
Ben si c'était le cas, je pense que tous les musiciens se mettraient à l'ordinateur et laisseraient tomber leur piano encombrant et qui fait du son et qu'on peut pas écouter au casque. Donc on voit bien que les nouvelles technologies apportent soit une interactivité avec l'instrument qui est différente, quelque chose qui peut être très appréciable dans les manipulations, mais si on va voir un concert de piano, on ne va pas écouter un piano sur deux haut-parleurs. Donc le fait que ce soit diffusé autrement modifie le rapport qu'a le musicien à l'instrument. Donc ce qui est au cœur, c'est de se dire que quand on est musicien, on est en interaction avec un objet, avec un instrument, et le ressenti du musicien dans le rendu sonore est essentiel. Donc non, l'ordinateur ne peut pas remplacer un piano dont on aurait des échantillons, de même que le violon ou le clavecin, on va pas aller écouter du clavecin avec un casque.
Écoutons pour méditer sur ces réflexions à la fois scientifiques et musicales un morceau d'Aphex Twin Syro.
Autour de la question. Antonio Fischetti. We'll be right back.
Autour de la question, quels sont les nouveaux instruments de musique en compagnie du musicologue Benoît Navaret. Alors Benoît Navaret, on vient d'entendre Aphex Twin, de la musique électronique, hein, mais les travaux scientifiques permettent aussi d'améliorer des instruments très traditionnels, hein, comme la flûte, le piano, la guitare, et notamment, disons, de travailler sur les matériaux. Vous-même, vous avez travaillé, je crois, sur les matériaux des guitares.
Oui, enfin, l'objet, c'est de savoir, sachant qu'il y a une connaissance, des idées qui sont répandues sur la facture des instruments, donc là, c'était les guitares électriques, on peut se poser la question de quelle est l'influence des matériaux utilisés sur un instrument, sur le ressenti du musicien. Et c'est comme ça qu'au LAM, on a mené des études de rencontres avec des artistes, avec des musiciens, qui peuvent nous faire part de leur ressenti. Et s'interroger sur le matériau, c'est aussi... pressentir qu'on pourrait utiliser des matériaux peut-être moins nobles ou qui ne sont pas si courants.
Mais concrètement, par exemple, hein, pour qu'on ait une idée de ce genre d'études, vous faites des tests avec des musiciens et puis vous leur demandez de jouer d'une guitare et puis d'une autre guitare constituée d'un autre matériau. Et puis, à partir de là, vous avez des questionnaires.
Exactement. C'est-à-dire, l'approche, c'est comme ça qu'on a mené les choses. C'est, on permet aux musiciens de venir de jouer sur des instruments qui... esthétiquement sont identiques, donc ils se ressemblent, mais nous on sait quel est le paramètre variant. Et donc si on a changé un matériau, si on a changé la façon dont on assemblait certains éléments de la lutherie, on essaie ensuite de voir si les éventuelles différences qu'aurait formulées le musicien peuvent être imputables au paramètre de lutherie qui a été changé.
Et ce qui est intéressant justement, c'est que ces travaux aboutissent à des résultats assez surprenants, hein, puisqu'on pourrait croire que les matériaux nobles, le bois ancien, disons, ont une acoustique forcément meilleure que des matériaux modernes, alors que ce n'est pas le cas.
Non, ce n'est pas forcément le cas, et on peut aussi, même si on est dans un processus de fabrication industrielle, trouver de grandes variabilités dans le rendu sonore. Alors, grande est à prendre avec des pincettes, c'est grande par rapport au ressenti d'un musicien qui peut très bien, si on prend le cas des guitares électriques, on peut avoir deux instruments produits le même jour avec dans la même chaîne de production et qui finalement vont avoir des subtilités de sonorité qui peuvent être très importantes du côté du musicien.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience, hein, qui a été menée au sein du LAM, hein, par Claudia Fritz sur les violons Stradivarius?
Ah, ben Stradivarius est un grand nom de la facture du violon, donc il y a tout un inconscient collectif, tout un imaginaire où on y va. Justement, on se dit, ah, bon, j'ai un Stradivarius, c'est l'instrument de mes rêves, l'instrument qui va sonner de la plus belle des façons. L'étude a montré que ce n'est pas forcément le Stradivarius qui a été préféré par les musiciens dès lors qu'on leur a permis de jouer sur des Stradivarius. Souvent, quand même, un musicien est à l'aise avec l'instrument qu'il connaît. Et si jamais vous avez, on vous dit, échauffe-toi pendant 2 heures, tu vas faire un concert sur un Stradivarius, rien ne dit qu'il sera à l'aise sur cet instrument et qu'il en tirera le meilleur de lui-même.
Donc, dans cette expérience, on demandait à des musiciens de jouer d'un violon, mais ils ne voyaient pas, en fait, le violon qui était caché, hein, par un tissu.
C'est, hein, une des difficultés. C'est vrai que nous, pour les guitares électriques, on avait des instruments identiques, tandis que là, si on a des instruments différents, forcément, on a une autre contrainte, d'où les protocoles expérimentaux qui sont adaptés par rapport à cette contrainte-là.
Et il y a des études qui sont menées, je crois, aussi à l'Université du Mans, hein, pour tisser des liens entre des scientifiques qui étudient les instruments de musique d'un point de vue acoustique et puis des fabricants d'instruments et des musiciens. On est vraiment dans une sorte, ouais, de pluridisciplinarité qui fait intervenir.
Exactement, c'est le mot pluridisciplinarité, aspects. Sachant que chaque communauté a ses outils, les facteurs d'instruments ont un savoir-faire et ils peuvent être intéressés par des outils qu'on utilise couramment dans les sciences en acoustique, et donc c'est le projet PAFI,
plateforme d'aide à la facture instrumentale,
qui propose à des luthiers qui le souhaitent des outils pour caractériser les matériaux, et c'est cette complémentarité des outils proposés avec le savoir-faire des luthiers que nous espérons au final être utile pour la fabrication des instruments.
Et ces instruments de musique nouveaux, hein, peuvent être utilisés dans la musique savante, dans la musique populaire et aussi au cinéma. Par exemple, hein, dans le film Avatar. Quels sont les nouveaux instruments de musique, hein, cet extrait, hein, du film Avatar, qu'est-ce que vous en pensez, Benoît Navarret?
J'avais choisi cet extrait pour dire que dans l'évolution des outils de composition, on est amené aussi à mélanger l'enregistrement d'un vrai orchestre qui a été enregistré au studio d'Abbey Road, mais aussi d'ajouter des sons échantillonnés, c'est ce qu'on appelle des instruments virtuels, c'est-à-dire que on achète des banques de sons dans lesquelles on a demandé à un musicien, par exemple un violoniste, de jouer toutes les notes de son instrument à différentes intensités. Et ensuite, encore une fois avec ce protocole du MIDI, on utilise un sampleur virtuel qui va nous relire
les sons. Sampleur, c'est-à-dire
C'est un échantillonneur, c'est-à-dire une boîte dans laquelle on met des sons. Et on peut appeler les sons qui sont dans cette boîte en disant, ben tiens, j'ai cette mélodie que je veux, et cette mélodie, je veux qu'elle soit jouée par le violon. Donc on va mettre le violon. Là, dans cette séquence que l'on a, c'est qu'on a des percussions qui ne sont pas jouées par un musicien, on a des voix qui ne sont pas de vraies voix qui ont été enregistrées devant un micro. Elles ont été au départ, mais après, elles ont été distribuées sous forme de DVD. Et c'est ce côté artificiel qui, lorsque la production est bonne, se mélange très bien avec de vrais sons tels qu'on l'a un peu plus tard dans l'extrait avec des sons d'orchestre.
Mais est-ce que ça veut dire que finalement, avec ces moyens technologiques, n'importe qui peut faire de la musique, ou au contraire, il faut être spécialiste d'informatique pour composer?
Quand on est amené à travailler comme ça avec des sons de synthèse, il y a quand même les métiers d'ingénierie du son qui jouent beaucoup. Et si vous êtes compositeur, vous êtes amené aussi à maîtriser les logiciels de post-production, d'enregistrement, pour avoir un rendu réaliste. Et rendre un orchestre réaliste à partir de sons qui sont des échantillons et des samples est quelque chose qui pousse à des compétences qui vont au-delà du simple aspect de la composition.
Mais on a quand même aussi une part, disons, bien empirique, hein, dans la facture instrumentale comme dans la musique. Hein, donc il y a quand même une interaction entre la science et puis l'empirisme sans cesse.
Oui, mais le projet PAFI dont on a parlé est justement là pour essayer de mélanger ces deux aspects. Mais la collaboration telle qu'on l'amène, telle qu'elle est menée au sein du LAM entre artistes, instruments, compréhension de comment ça fonctionne, compréhension de comment les musiciens perçoivent les choses, compréhension de comment les luthiers eux-mêmes définissent leur art, c'est ça qui est au cœur des recherches, de manière à, on l'espère, soit permettre à des instruments qui sont voués à disparaître, parce que l'électronique, les composants aussi, ça peut disparaître, soit donner lieu à de nouvelles lutheries pour de nouveaux langages et de nouvelles pratiques musicales.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que au sein de votre équipe, hein, vous travaillez également sur la psychologie, pas uniquement sur l'acoustique ou la musique.
Exactement.
Hein, c'est une dimension fondamentale.
Oui, mais vous le dites bien, c'est bien fondamental. C'est-à-dire que s'attaquer à l'humain, attaquer dans le sens parler avec des musiciens, savoir comment poser des questions et être capable de comprendre et d'analyser ce qui a été dit, c'est tout un art. Aussi, et on est obligé, dans le sens où il faut s'astreindre à des règles précises et qui sont effectivement développées au sein du LAM, de manière à comprendre et proposer des analyses pertinentes du discours des musiciens.
C'est donc dans la musique, hein, que l'art et la science et la technologie également se conjuguent le mieux. Hein. On l'a vu et surtout entendu, hein, que ces domaines sont en continuelle évolution, hein, pour le plaisir des musiciens et nos oreilles à tous également. Benoît Navarret, merci. C'était au tour de la question, quels sont les nouveaux instruments de musique, hein, avec à la réalisation Nicolas Benita et Caroline Fillette en coulisses.